C'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux. C'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présentes malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, rappeurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
On n'a pas mentionné les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nos garçons nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour, sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, c'est l'émission En bas à gauche qui prend les ondes aujourd'hui, mardi matin, 9h. Au menu de l'émission aujourd'hui, en compagnie de Blandine, nous avons en première partie une petite entrevue sur le Festival international de théâtre anarchiste qui aura lieu demain, si je me trompe pas, oui, mercredi. Ce sera suivi d'une courte entrevue avec un membre de la coalition contre les impacts socio-environnementaux des transnationales pour nous annoncer une mobilisation contre principalement les transnationales canadiennes dans le milieu de minières et énergétiques, donc pétrolières également. La deuxième partie de l'émission sera consacrée aux sociétés militaires privées. Alors, on vous en dit pas plus pour l'instant. On vous invite à rester avec nous. On commence tout de suite avec une entrevue qui a été réalisée hier soir à l'émission En profondeur de CKUT et qui porte sur le festival, comme je vous disais, le Festival international anarchiste.
André Parent pour CKUT. Et aujourd'hui, j'accueille Sandy Laplage. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Sandy, c'est notre rendez-vous annuel pour parler du Festival international de théâtre anarchiste de Montréal, qui, cette année, va se dérouler sur une journée seulement. Depuis déjà plusieurs années, c'était toujours deux jours. Et là, cette année, ce sera le mercredi 18 mai à la Sala Rossa, donc un très beau lieu pour ce genre d'événement. Une journée parce que malheureusement, bien, vous n'avez pas de subvention et il y a eu beaucoup, il y a eu des coupures un peu, autant des gens de l'étranger qui finalement ne viendront pas. Mais tout ça a été quand même, en tout cas, vous avez réussi à récupérer beaucoup de spectacles qui vont tous être présentés le mercredi 18 mai.
Oui, je me précisais qu'on va avoir une longue soirée le 18 mai, mais nous, on ne demande pas. Par principe, on ne demande pas des subventions de l'État. C'est sûr qu'on accepte des dons. Il y a pas, on a un don assez généreux une fois, mais c'est comme beaucoup de projets. C'est les ventes d'affiches et tout, et les ventes de billets à la porte ou à la librairie d'insoumise. Mais les dons, il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous, on n'a pas d'objection si les troupes cherchent des subventions auprès de l'État ou des fondations. Mais des fois, c'est compliqué. Et le monde sont très généreux avec nous. Le Living Theater paye leur passage, Balancelle de France, la même chose. Mais des fois, c'est impossible. Mm-hmm. De venir de la Suisse, ça peut coûter quasiment 800-900 $.
Oui, parce qu'effectivement, vous attendiez une compagnie de la Suisse qui finalement ne viendra pas. Par contre, il y a une compagnie de l'Allemagne qui va être là.
Oui, c'est ça. Et c'est quand même, pour eux, c'était difficile de trouver le financement, mais finalement, ils en ont trouvé. Et c'est une troupe de jeunes espagnols, des anarchistes espagnols, qui habitent maintenant à Berlin, qui font du théâtre dans ces deux langues, l'espagnol et l'allemand. Mais cette année, ils sont en train de traduire, mais ils viennent de traduire une pièce de Heinrich Müller qui s'appelle en anglais « The Miller of Potsdam ». Et on croit que c'est la première fois que cette pièce est traduite vers l'anglais.
OK. Donc, faut dire d'ailleurs que le festival se déroule dans les deux langues, anglais et français. Alors, dans les invités, on a des gens comme ça, donc les pièces vont être en anglais, mais on a aussi des pièces en français. Un autre groupe, d'ailleurs, c'est les Anarchistes Anonymes avec Bruno Massé.
Oui, c'est ça. Et cette pièce-là déroule en français. J'aimerais préciser qu'il y a des années que les deux soirées ont été bilingues, dans le sens que mélangées, pas de traduction. D'autres années que c'est une soirée anglophone et une soirée francophone. Et cette année, c'est les deux. Et effectivement, les Anarchistes Anonymes, leur pièce est en français. C'est une troupe assez expérimentée de Montréal qu'ils ont écrit leur pièce, puis ils vont monter leur pièce.
Et après ça, on va avoir aussi Paul Pelletier, qu'on connaît bien du côté francophone.
Oui, j'aimerais juste dire aussi, pour nous, on essaie d'avoir un genre d'équilibre entre le monde connu, comme Paul Pelletier, comme le Bread and Puppet, comme le Living, et les gens, surtout de Montréal, du Québec, inconnus, qui commencent pour leur donner la possibilité d'être sur scène, mais avec les gens qui ont beaucoup d'expérience. Mm-hmm. Et nous, vraiment, ça me fait... L'équilibre me fait vraiment chaud au cœur d'avoir ça. Et pas juste, c'est pas juste, on cherche pas les vedettes. En même temps, c'est vraiment fantastique pour nous que quelqu'un comme Paul Pelletier veut participer avec nous.
Mm-hmm. Et elle va faire un extrait de son spectacle Nicole, c'est moi, qu'on a vu déjà depuis quelques années. Mais elle fait aussi une conférence démonstration qui s'appelle Entre théâtre et pauvreté. Et ça, c'est le samedi 14 mai de 13h à 17h, donc avant le festival. Et l'intéressant, c'est que ça prend un laissez-passer obligatoire, mais quand même, l'événement est entièrement gratuit. Et ça, c'est assez exceptionnel. Parce que normalement, c'est ce genre d'événement-là est toujours assez cher.
Dans le fond, l'événement, on fait ça avec une fondation qui ça s'appelle Engrenage Noir Le Levier, qui travaille beaucoup la question des arts et pauvreté. Et eux, pour eux, en principe, leurs événements sont gratuits. Et c'est pour ça que c'est prendre le laissez-passer qui est disponible à la librairie Insoumise.
Toujours, d'ailleurs. La librairie L'Insoumise, très important. Un autre groupe très intéressant, c'est le Bloc des auteurs anarchistes qui seront présents et qui viennent justement aussi de sortir un livre. Donc, parle-nous un peu de ce groupe-là.
Dans le fond, il y a un an, pendant le Salon du livre anarchiste de Montréal, il y en avait une réunion des auteurs avec l'idée de faire un recueil de nouvelles en anglais puis en français, à nouveau pas des traductions. Et c'est le lancement, c'est ce recueil-là.
Le lancement, c'était le 5 mai.
Okay.
Alors, oui.
Et ils vont remanier leurs nouvelles pour faire une pièce basée sur plusieurs nouvelles. Et cette pièce-là va être dans les deux langues. Mais c'est pas une lecture. D'ailleurs, nous, c'est jamais des lectures. Une de nos règles de base, si je peux dire, qu'il n'y a pas de papier dans les mains. C'est du théâtre, c'est pas des lectures dramatiques. Et ça risque d'être fort intéressant. Parce que pour nous, dans le fond... L'anarchie, c'est autant d'être dans la rue pour la justice sociale, mais on souligne beaucoup avec le festival du théâtre, avec le livre, le côté, l'importance de la création et de la créativité pour le mouvement anarchiste.
Et il y a Raphaël Hubert qui va faire aussi une présentation. Et lui aussi, on peut le retrouver d'ailleurs, on peut retrouver une de ses nouvelles dans le livre qui s'appelle Subversion.
C'est ça. Et Raphaël, c'est un jeune écrivain qui commence, puis... Nous, on trouve qu'il y a beaucoup de talent.
Alors donc, tout ça, puis plus encore, je suppose, pour cette grande soirée du 18 mai. Et il faut dire que justement, tu parlais du salon du livre anarchiste. Ce salon-là va se dérouler le 21 et 22 mai. Maintenant, tu n'as plus le temps de t'en occuper, mais pendant longtemps quand même, tu t'en occupais. Et ça fait quand même partie de tous les événements qui parlent d'anarchie au mois de mai.
C'est ça. Sur le site du Salon du Livre, il y a un calendrier et beaucoup d'événements cette année. Il y a des films, des conférences. Il y a une surréaliste de Chicago qui s'appelle Penelope Rosemont qui va venir faire une causerie. On peut penser de ne pas être chez nous tout le mois de mai. Et le salon, c'est vraiment un événement de sur deux jours maintenant. Beaucoup d'exposants et des films. Il y a des œuvres d'art aussi. Et ça vaut vraiment la peine de venir et voir, là.
D'ailleurs, bon, on peut avoir plus d'informations en allant sur leur site, salonanarchiste.ca. Tout comme il y a aussi un site internet pour le festival, bien sûr, festivaltheatreanarchiste.yahoo.ca.
C'est ça.
Et donc, on rappelle que le festival, bien, c'est le 18 mai et on peut se procurer donc des billets à la librairie L'Insoumise et c'est pas très cher, c'est 15 $ pour la soirée.
Puis on peut aussi acheter des billets à la porte.
Ah, bien sûr, si c'est pas complet.
Si c'est pas complet.
S'il reste de la place. Alors, bien, merci beaucoup, Sandy, de venir nous voir comme ça chaque année et de nous organiser des choses comme ça avec des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, tu nous a toujours fait faire des belles découvertes et cette année, ben, je pense que ça va être encore le cas. En tout cas, avec cette troupe d'Allemagne, là, j'ai hâte de découvrir. Et d'autres, des gens d'ici, beaucoup de gens d'ici et c'est bien de voir comment tout ça se poursuit. Merci beaucoup, Sandy.
Merci.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers.
La France est très en avance et très protectrice sur ce sujet et j'y veille personnellement.
Du ministère, fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte, plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière, ordre sentence, décret du ministère, appel à résistance, la chasse est ouverte, c'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le Président a dit à Monsieur le Ministre de dire à Monsieur le Préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires, à la porte les métèques, on veut que des pots clairs, les ordres sont d'user de méthodes efficaces, appel à délation pour expulser les sales races. Paris a défausé air d'un Vichy sous l'occupation, réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon, la milice républicaine est passée à l'action, elle a raflé les mômes dans les cours de récréation, elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur, cours pour être libre, moi je sais que tu as peur, cours dans l'indifférence du peuple de France, ils ont voté. Et maintenant, silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Un mouton. T'as tes papiers ?
Attrapez-le !
Non. Dommage.
Entendez-vous, chers citoyens, le cor de chasse qui sonne. Françaises, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre. Sachez, chassez, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez, croisez les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier. Vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend. Six pieds sous terre, hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu
peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un
ouvrir les
centres
de rétention.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière.
Ouvrir les centres de rétention. Ouvrir les centres de rétention.
Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître,
la chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre,
la chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école,
la chasse est ouverte.
Au berceau, à l'hôpital,
la chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens,
la chasse est ouverte.
Du premier. Et je vais aller jusqu'au bout.
Vous écoutiez La chasse est ouverte avec le ministère des Affaires populaires sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. C'est l'émission En bas à gauche. Et je passe le micro à Blandine qui est en ligne avec Gerardo Heikel de la Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine.
Oui, bonjour. Alors, on va se faire le plaisir de répéter le nom. Donc, on est avec Gerardo de la Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine. Et on va parler du congrès et du salon commercial de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie et du pétrole intitulé « Mines sans frontières » puisque, évidemment, Gerardo, la Coalition va y participer activement, n'est-ce pas?
Oui, on va participer activement le lundi 23 mai à 10h. On va être là, en face, un peu pour parler un petit peu, pour dénoncer un petit peu ces activités minières qui se font surtout en Amérique latine et ici au Québec aussi, de façon sans respecter les droits de la personne, sans respecter les droits environnementaux.
Alors en plus, c'est un congrès qui s'appelle Mines sans frontières, non sans ironie. Qu'est-ce qui se parle dans ces grosses activités au Palais des congrès? Fait que ça dure quand même 3 jours.
Oui, c'est 3 jours. Ils font beaucoup la promotion de tout ce qui est activité minière, tout ce qui est ressources naturelles. Des grandes compagnies sont là, comme Goldcorp, qui c'est une compagnie qui a fait beaucoup de ravages en Amérique latine et qui est considérée comme une compagnie où on demande, par exemple, que au Guatemala, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé l'arrêt de ces activités. Donc, c'est un salon surtout pour la promotion des activités minières. Avec le plan Nord, que le gouvernement chargé a mis en place, disons, il y a toute une ruée vers cette région qu'on appelle l'Amazon du Nord, parce que c'est très peu touché, sur des projets miniers qui vont être mis en place et qui vont provoquer peut-être beaucoup, beaucoup de dommages environnementaux, mais aussi des dommages sociaux, parce que les communautés autochtones vont être très touchés. On va commencer à voir après, dans quelques années, qu'est-ce que ça va être l'impact sur les communautés autochtones. On le sait déjà en Amérique latine, quels ont été les impacts.
Et qui on retrouve donc dans ces... c'est toutes les gens qui sont, dans le fond, à la fois les gens qui découvrent des mines, qui les exploitent.
Bon, c'est des gens qui découvrent des mines, des ingénieurs miniers, des gens des universités un petit peu pour faire la promotion de la carrière des génies à mines. Mais aussi, il y a des expositions pour les enfants. On fait tout. Il faut comprendre ça que dans cette activité, c'est la promotion des activités minières comme telles, qui vont montrer comme les activités minières c'était une activité sans impact écologique, avec très peu d'impact écologique, et encore moins avec des impacts socio-environnementaux. C'est comme si on disait dans cette activité, on va faire la promotion des activités minières comme une façon du développement, de faire du développement à travers le monde, qui est sans conséquence, dire comme c'est la voie de l'avenir. Avec au prix aujourd'hui des matières premières, on pense que dire cette ruée vers les matières premières, ça fait en sorte qu'il y a toute une espèce d'attaque des compagnies qui se sont mises à la course pour aller trouver les matières premières. Donc on fait la promotion de ça, on fait la promotion du saccage de la planète en quelque sorte.
Oui, puisque ces compagnies-là ont quand même des firmes de communication qui ne manquent pas d'humour.
Ils ne manquent pas de ressources. Hein. Louer 3 jours les palais du Congrès avec des activités, des artistes aussi, des salons de promotionnels, des gens qui vont animer, des gens très connus qui vont animer. C'est un salon vraiment de la promotion de cette activité. Face à ça, on va être nous, qu'on n'a aucune ressource, qu'on va être en train de dénoncer ce qui se passe dans l'Amérique latine et ailleurs dans le monde sur les activités des compagnies minières.
Alors, qu'est-ce qui va se passer lundi à partir de 10h? Vous nous invitez à nous rassembler devant le Palais des Congrès sur la rue Saint-Urbain?
Oui, on va être à partir de 10h. On va être juste pour manifester notre désaccord avec ce type d'activité, notre désaccord avec le non-respect des droits de la personne qui font ces compagnies minières en Amérique latine et ailleurs dans le monde. On va être là juste pour manifester pacifiquement et dire qu'il y a une autre voie aussi, et réfléchir, inviter les gens à réfléchir, que ça c'est pas la voie du développement, dire ça c'est la voie de la destruction, des inégalités sociales, des conflits sociaux, dire qu'il faut réfléchir aussi dans le monde actuel, avec la crise écologique qu'on vit, de voir d'autres voies de solutions.
Alors si on veut suivre les travaux de la coalition, ces autres activités, est-ce que sur quel site web, à qui s'adresser ou comment s'informer?
Oui, comment s'informer, c'est on peut m'appeler à moi, 514-270-6089, Gérardo, 514-270-6089. On n'a pas de site web, on est en train de construire un site web, mais on fait beaucoup d'activités par des conférences, on invite du monde à des conférences qui viennent parler sur la question des impacts des compagnies minières. Parce que la majorité sont compagnies canadiennes, donc on a un rôle à jouer ici au Canada. Et puis on informe le monde à travers Radio Centre-Ville, à travers des courriers électroniques, des universités. On essaye d'informer le plus de monde. Mais on est en train de construire un site internet, on va le faire très bientôt.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Merci à vous de m'avoir invité à parler.
Alors, on était avec Gerardo de la Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine. Alors, on vous le rappelle, du 22 au 25 mai 2011 aura lieu au Palais des Congrès de Montréal le congrès et salon commercial de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, intitulé Mines sans frontières, note de l'éditeur non sans ironie. Donc, c'est un gros festival pour faire la promotion des compagnies minières et de leurs bienfaits. Donc, on sera plusieurs personnes en face lundi matin à 10h pour dénoncer ce faux discours et toutes les crimes qui sont commis par ces compagnies-là. Donc, en rappelant que 75% des compagnies minières du monde sont enregistrées à la bourse de Toronto, puisque le Canada offre un contexte législatif tout à fait charmant pour que ces compagnies fassent plus de bénéfices. Alors, on va continuer en musique.
Non, c'est maintenant l'heure de l'anti-hebdo.
Ah, mais oui,
alors,
c'est l'anti-hebdo.
Blandine, en 5 minutes, je crois que le Festival anarchiste poursuit, puisque nous sommes toujours dans le mois de mai.
Mais tout à fait, il se poursuit. Alors, comme on vous le disait, plus tôt, il y a le Festival de théâtre anarchiste. Vous pouvez encore aller acheter vos billets en avance à la librairie L'Insoumise au 2035 Saint-Laurent. Sinon, ça va avoir lieu à la Sala Rossa, mercredi soir à 19h30. La Sala Rossa, donc, sur la rue Saint-Laurent, juste un petit peu en dessous de Saint-Joseph. Également, show et lancement du nouvel album de Tess Vologic, le groupe de hip-hop d'Ontario, qui s'est fait beaucoup connaître, notamment avec sa chanson Crash Your Meeting avant le G8 et le G20, et aussi par la judiciarisation qu'ils ont subi dû à cette chanson. Donc, ils sont de retour avec des chansons tout aussi incendiaires. Donc, ce sera un lancement jeudi soir à 20h au Deaf Church au 3067 Wellington, métro La Salle. C'est un lieu qui est accessible au fauteuil roulant. Vendredi 20 mai, c'est le fameux cabaret anarchiste, donc c'est ce qui ouvre la fin de semaine du Salon du Livre. Ça va avoir lieu à l'Alizé au 900 Ontario Est, métro Berry-UQAM. C'est également accessible en fauteuil roulant. Donc c'est une soirée de musique et performance qui est au profit du Salon du Livre anarchiste. Il y a une contribution volontaire qui est demandée de $5. Personne ne sera refusé, c'est ça. On y trouvera Jeunesse apatride, The Fascials, Stéphane Robitaille, la chorale libertaire de Pointe-Saint-Charles et plus, et même plein d'amis pour toute la fin de semaine. Alors, remise de prix pour les projets atroces d'infrastructures. Et oui, ce n'est pas seulement le Festival de l'Anarchie. Il y a aussi d'autres mobilisations comme les acteurs pour un meilleur Turcotte. Donc, la mobilisation qui suit son cours contre les projets de l'échangeur Turcotte. Alors, c'est un rendez-vous. Ça va être à 10h du matin vendredi au coin René Lévesque et Peel Métro Bonaventure. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations, contacter le pas pire, le comité logement de Saint-Henri, ou écrire à mob.turcotte@gmail.com. Alors, vous ne vous en doutiez pas, on vous en parle depuis des semaines, c'est le Salon du Livre Anarchiste en fin de semaine. Donc, toute la journée, samedi et dimanche, beaucoup d'activités. Samedi et dimanche, il va y avoir des tables. Il y a à peu près 200 groupes qui tiennent des tables toute la journée. On vous conseille d'y aller tôt et non pas d'attendre le pic à 2h parce qu'il y a des milliers de personnes, littéralement, qui se réunissent à cet événement-là. Également, toute la journée, les deux jours, il y a des activités pour les enfants. Donc, pas seulement une garderie, mais des ateliers pour les parents et pour les enfants. Également, le samedi, toute la journée, il y a une salle de médias autonome et c'est la journée des ateliers d'introduction. Donc, si vous êtes curieux, vous vous demandez qu'est-ce que l'anarchie et vous n'avez pas réécouté toutes les entrevues sur le sujet sur le blog d'en bas à gauche, c'est le moment pour en apprendre plus. Et si vous êtes déjà convaincu et sympathique et que vous voulez en savoir plus et discuter et échanger avec d'autres gens, ça va être dimanche les ateliers de réflexion sur le sujet. Alors, pour toute la programmation que je ne vous détaillerai pas, salonanarchiste.ca. Également, vous y trouverez les nouvelles de la soirée puisqu'il y aura un barbecue en soirée au DIRA, la bibliothèque anarchiste, au 2035 Saint-Laurent, et un souper communautaire anarcho-autochtone qui va avoir lieu dans le sud-ouest au 3942 rue Saint-Émilie, donc à 19h. Vous pourrez avoir plus d'informations sur saint-émilie-skillshare.com. Et la soirée se terminera avec le fameux Glamarkist Look Fair, qui est la grosse soirée de mi-salon du livre, donc qui a lieu un petit peu plus proche au 170 Jean Talon Ouest, Métro Parc à Île-Motoré. C'est également accessible en fauteuil roulant. C'est organisé par Q-Team. Dimanche, ce sera donc la suite. Et comme on vous le disait lundi, ça va être la mobilisation donc de la coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine, qui se réunira devant le Palais des Congrès sur la rue Saint-Urbain, au coin de l'avenue Vigée, au métro Place d'Armes, à 10h. Pour avoir plus d'informations sur les événements qu'on ne vous a pas nommés, n'hésitez pas, cemac.net ou agendamilitant.info.
Et de mettre, de réserver tout de suite à votre agenda, pas ce samedi, mais le prochain samedi 28 mai, la grande marche, le grand rassemblement organisé par Solidarité sans frontières pour une ville sans frontières pour arrêter les déportations et reconnaître que personne n'est inégal et que nous avons tous droit à un statut et à une place pour vivre dans la dignité et en paix. On vous revient après la petite pause commerciale de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Spécial du jour. Ce que nous avons au menu, la joie, de la joie et encore de la joie. Alors écoutez-nous tous les mercredis soirs de 22h30 à 23h30. Spécial du jour.
Wide Awake, samedi matin, 9h à 10h.
Il y a quatre éléments.
Le cavalcade de Big Band avec Jerry Friedlansky.
Le programme pour déjeuner.
Des informations sur la santé alternative.
Et ça finit avec les livres parlés.
Dermalis, soins anti-âge visage et corps. Dermalis, soins esthétiques pour femmes et hommes. Dermalis, traitement exclusif. 514-289-2626 ou visitez dermalis.ca.
Chez les Sénoufos et les Dioula de Côte d'Ivoire, l'analphabétisme dépasse 70%. À cause des travaux agricoles, les enfants ne vont pas à l'école. Des centres d'alphabétisation sont nés. Il faut doter les classes d'éclairage solaire, car le village n'est pas électrifié et les cours ne peuvent se donner avant 19 heures à cause du travail des enfants. Le père Pietro Villa, missionnaire de la Consolata, a besoin de votre aide. N'hésitez pas. Composez le 514-334-1910. 334-1910.
En matière de musique, Radio Centreville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Alors, toujours sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM, vous écoutez En bas à gauche et comme on vous l'annonçait plus tôt au début d'émission, cette deuxième partie est consacrée aux sociétés militaires privées. On vous rediffuse des extraits d'une entrevue qui a été réalisée par Paris France Afrique. C'est l'émission radio de l'organisation Survie, donc une organisation en France qui, en collaboration avec plusieurs mouvements sociaux et organisations d'Afrique, lutte pour une réelle décolonisation de l'Afrique, de la France-Afrique particulièrement. Donc, Survie a publié récemment un livre, un dossier noir intitulé « La privatisation de la violence, mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché ». Et dans le cadre de leur émission Paris-France-Afrique, ils ont invité un des auteurs, Xavier Renoux, pour expliquer en quoi consistent ces nouvelles entreprises privées de la guerre et qu'est-ce qu'elles font en ce moment. Alors, on vous laisse écouter un extrait de l'entrevue réalisée par Paris-France-Afrique.
Aujourd'hui, on va parler du mercenariat et on a invité pour ça Xavier Renoux, l'auteur d'un livre qui s'appelle « La privatisation de la violence » qui est sorti au dossier noir, donc édité par Survie. Peut-être que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce livre et puis un peu du sujet global, de qu'est-ce qu'on entend par le mot de mercenariat.
La genèse de ce livre, « La privatisation de la violence », elle est diverse puisqu'il y a à la fois un travail de thèse consacré à l'extrême droite et en particulier à l'extrême droite en France, violente que représentait la filiation du mouvement Occident, du GUD, aujourd'hui les identitaires, toute cette mouvance militante d'extrême droite qui a donné des dizaines et des dizaines de combattants pour le mercenariat de la France-Afrique. Donc en étudiant pour une thèse de sciences politiques le militantisme d'extrême droite de cette mouvance en gros néo-nazis de quartier riche, en gros c'est la différence avec les skinheads et ce qui les caractérise, eh bien j'en suis venu à la France-Afrique parce que une partie de ces militants s'engageaient régulièrement ou étaient engagés régulièrement par nos services secrets pour aller effectuer différentes tâches en Afrique au service de notre politique étrangère. Ça, c'est une première genèse. Une seconde genèse, c'est le fait que j'ai eu la chance, quand le service militaire était encore obligatoire, j'ai eu la chance d'y échapper et de notamment de partir en coopération en Afrique du Sud et de faire une coopération qui n'était pas au service de la coopération française, mais qui était au service d'institutions noires sud-africaines, d'universités, dans lesquelles j'ai pu faire de la recherche et de l'enseignement. Et à ce moment-là, la fin des années 90, il y avait des chercheurs américains qui travaillaient là-bas également et qui, eux, travaillaient, notamment un en particulier, Doug Brooks, qui travaillait sur la privatisation de la guerre et le développement des sociétés militaires privées. Donc j'avais alors jamais entendu parler puisque le mercenariat français se limitait jusque-là à ce que l'on a appelé un peu les affreux sur le modèle de Bob Denard, donc plutôt une collection d'individus plus ou moins correctement formés formé, correctement armé, engagé à la façon de l'intérim ponctuellement pour des missions, et dans lesquels un certain nombre étaient originaires des milieux d'extrême droite. En Afrique du Sud, ces chercheurs américains apportaient la nouveauté américaine pour le coup, qui aujourd'hui s'est malheureusement répandue très largement autour de la planète, qui étaient les sociétés de mercenariat, les sociétés militaires privées. Et ces chercheurs-là étaient aussi de fiers défenseurs du néolibéralisme, donc de la régulation de nos sociétés par le marché, et considéraient que la privatisation de la guerre était une façon de réguler la violence, de réguler la guerre, de ramener la paix là où il y avait la guerre, et notamment dans des pays pauvres qu'ils disaient abandonnés des grandes puissances. On sait évidemment que loin d'être abandonnés, les pays pauvres sont bien plus dominés et agrippés par les pays dominants, et non pas abandonnés, mais en tout cas ces chercheurs-là disaient que puisque les pays occidentaux abandonnaient à leur triste sort les pays pauvres, en proie à des guerres, il fallait confier à l'ONU le soin de ramener la paix en faisant appel à des boîtes de mercenariat qui, puisqu'il s'agissait de mercenaires, n'aurait aucun scrupule à intervenir, et puis n'aurait aucun scrupule à quitter le lieu du conflit dès lors que leur contrat en serait achevé. Alors que quand on envoie une armée, c'est beaucoup plus compliqué de la faire partir, il y a plein de billets, etc. Donc ils étaient dans une logique d'application des théories néoclassiques, en fait en économie, mais néolibérales on dit dans le langage politique, de la régulation de tout par le marché. Le marché serait vertueux, un mécanisme vertueux, et permettrait de réguler même la guerre.
D'accord.
Et alors pour terminer cette genèse, pardon, j'ai commencé donc à m'effrayer en fait des arguments développés par ces chercheurs en Afrique du Sud, et donc d'essayer d'en voir le contrepoint, d'en faire le contrepoint. Donc j'ai travaillé avec eux mais contre eux là-bas, et puis quand je suis revenu en France, je m'attendais évidemment à ce que le modèle américain nous touche à son tour, puisque la France s'engageait dans le même type de politique économique, de dérégulation générale, donc on pouvait s'attendre à ce que la guerre, la violence elle-même soit dérégulée à un moment. Et donc je suis allé proposer à Survie, dont j'étais proche, d'y consacrer un dossier noir.
Tu peux nous brosser un peu une définition du mercenariat?
Alors, la question de la définition, elle est au cœur de la problématique. Le mercenariat est aujourd'hui une pratique condamnée par les grands textes internationaux. Sauf que ça n'empêche pas du tout son développement, et pour cause, aujourd'hui les mercenaires se prétendent tout sauf des mercenaires. Ils sont des conseillers, ils sont des collaborateurs, ils sont des techniciens, ils sont etc. etc. La différence n'est pas que polémique, elle résulte dans la modification de l'activité de la guerre. Autrefois, le mercenaire, c'était simplement un combattant qui se vendait au plus offrant. Il avait donc la caractéristique, on l'appelait d'ailleurs le soldat de fortune aussi, d'être un soldat temporaire, d'être quelqu'un qui pouvait se vendre à une puissance étrangère. Mais toujours pour combattre. Aujourd'hui, la guerre s'étant sophistiquée, s'étant renforcée par des moyens technologiques sans précédent, on a aujourd'hui toute un très large éventail de métiers de la guerre qui ne sont pas tous liés directement au combat. Il y a évidemment le soldat en bout de chaîne qui tient le fusil, ou le pilote qui appuie sur le bouton qui lance le missile, mais il y a toute une autre chaîne logistique qui est indispensable à la menée de la guerre, mais qui ne concerne pas des métiers directement liés au combat. Et c'est là que les nouveaux mercenaires interviennent, puisque à l'exception d'une poignée d'entre eux qui sont des combattants, enfin une poignée un peu plus, on les voit en Irak, on les voit surtout en Afghanistan. Ils s'emploient surtout à des tâches de sécurisation de zones, de protection de sites industriels, pétroliers, etc., ou de gardes du corps lourdement armés, ou d'escorte de convois militaires, etc. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque au-delà de ces combattants mercenaires, il y a des ingénieurs, des cuisiniers, des plombiers, des constructeurs, des mécaniciens, des pilotes, des chauffeurs de poids lourds, qui sont tous, selon moi, des mercenaires, parce que ce sont des gens qui exercent ces métiers très ordinaire dans un contexte qui ne l'est pas du tout, le contexte d'une guerre, et qui les exerce, ces métiers, au service de la guerre. C'est-à-dire que le chauffeur de poids lourd transporte des armes ou du matériel, en tout cas nécessaire à l'activité de la base militaire américaine en Afghanistan ou en Irak. L'ingénieur, eh bien, il va apprendre à des militaires comment servir des armes. Le mécanicien va réparer l'avion indispensable, etc., etc. Mais alors, évidemment, ce ne sont plus au strict sens du terme des combattants. Alors, évidemment, ils jouent sur cette ambiguïté pour dire nous ne sommes pas des mercenaires. C'est un peu tout ça l'enjeu de cette définition. Alors, on est en train aujourd'hui de voir se développer donc un mercenariat en entreprise, des entreprises de mercenariat. Ça, c'est relativement nouveau. Ça vient des États-Unis, mais en fait, il y a eu une autre période dans l'histoire où on a vécu un petit peu ce phénomène, et c'était les compagnies de gouvernement. Et aujourd'hui, on a de plus en plus nos grandes puissances occidentales qui continuent d'avoir une politique étrangère coloniale, néocoloniale, impérialiste, appelez-les comme vous voulez, mais qui se fait par délégation au secteur privé. C'est vraiment l'objet du développement de ces sociétés militaires privées que de permettre la délégation du sale boulot, qui permet, quand les compagnies mercenaires font des bêtises, enfin quand plutôt elles se font prendre à faire des bêtises, de nier toute responsabilité. C'est-à-dire que les Américains peuvent demander à des sociétés de mercenariat de gérer des prisons en Irak ou en Afghanistan, d'y effectuer des interrogatoires, et quand on s'aperçoit qu'il y a eu de la torture de prisonniers, eh bien évidemment les États-Unis disent ah, mais non, nous on a délégué à une entreprise qui a pignon sur rue, on lui a jamais demandé de torture.
À vendre mine d'or dans le désert, 2007 pour 2000 tonnes à extraire, frais d'exploitation dérisoire, par employé 10 grammes de pain plus au croupier à boire.
À vendre sans plus attendre, parcelles de chair, tout type d'organes et de viscères, foie, cœur, globe oculaire, tout volume et tout âge, étiquetage mexicain, provenance colombienne, contacté en semaine, 9h20, père et fils, grande boucherie humaine.
À vendre viande folle pour institut psychiatrique, stock important, DMC périmé, bonus, cervelle de veau, malade, fervide. Des stockages rapides appelés s'y intéresser.
Propose virus, gangrène en fœtus, très actif dans l'eau de source plus. Cancer très rare, mélanine peau noire uniquement. Testé cliniquement, breveté, déposé.
Z pour presque rien.
Allez, 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 allez.
Bâtiment délabré, clim naturel. Termites et cafards pour voisins. Ah. Clandestin sans papier, ah. 4000 francs la parcelle.
Promotion printemps, moins 20% sur nouveau réseau. Cabaret thaïlandais, privé et discret, grand choix d'autochtones. Jeune vierge et vieille cochon. 7 jours, 7 nuits, hôtel, repas compris. Départ Genève, Bruxelles ou Paris. Parrainer un ami et gagner. Ernest Satie, le bonus fidélité.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage. Urgent recherche, troupeau de sans-papiers parlant peu français. Sous arrêt d'expulsion, taillable et jetable, jetable et taillable pour chantier grand stade en construction.
À vendre, petit nécessaire de torture. Fait ses preuves dans interrogatoire musclé. Vendu plus pater pour chaîne ou mur. Bonne affaire, notice, contrôle technique, ok.
À vendre, usine dégrossie, Istanbul, Turquie. Montage, atelier, électroménager. Plus 1200 bras, rapport salaire français 1 sur 23.
À vendre, stock bébé pour parents stériles. Provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent. Garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord propose gestion tout confort. Fort, transfert, blanchiment, argent sale, parfait, idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
ça va être le développement des sociétés militaires privées. Ça va être le fait, la nécessité de gérer du capital, c'est-à-dire des expéditions mercenaires qui ont accès à beaucoup d'argent pour pouvoir se doter de l'équipement militaire de premier choix et de la main-d'œuvre militaire occidentale la mieux formée. Ça, c'est les Américains qui vont commencer à faire ça avec les Britanniques contre les Français, notamment au moment de la sortie de la guerre froide. Quand les Russes se retirent très rapidement du continent africain, les tensions internes au camp occidental vont s'intensifier. Les Américains qui avaient en quelque sorte délégué le boulot de contrôle du continent africain et de ses ressources et de blocus face aux Russes, les Américains reviennent en force en Afrique autour de 89, 90, 91 et là ils vont faire appel à des conseillers militaires et à des sociétés militaires privées de première classe. Les Britanniques qui sont leurs alliés en Afrique vont également faire cela. Et là, c'est la situation de l'Angola, de la Sierra Leone, du Libéria, où l'on va avoir notamment la première vraie société militaire privée moderne, Executive Outcome, formée de militaires de premier niveau, de premier rang, de l'ex-armée de l'apartheid en Afrique du Sud, des gens qui sont allés à l'école, qui sont allés se former aux États-Unis, en Grande-Bretagne, voire en France, et puis qui n'ont pas accepté le changement, évidemment, politique en Afrique du Sud, et qui donc sont allés vendre leurs services en formant une entreprise de mercenariat, Executive Outcome, qui va recevoir le concours d'actionnaires britanniques, d'actionnaires américains, et donc va pouvoir mobiliser non seulement beaucoup de mercenaires et beaucoup de mercenaires très bien formés, mais également un équipement militaire de premier niveau susceptible de gagner des guerres. Et donc, ils vont gagner des guerres en Sierra Leone, au Libéria, au service toujours des intérêts occidentaux. Ça, c'est vraiment le nouveau mercenariat qui arrive aujourd'hui, notamment cette fameuse loi qui autorise les partenariats privés-publics ou publics-privés, PPP, qui vont permettre de créer des marchés pour l'émergence de sociétés militaires privées. On a en fait une évolution qui est assez intéressante parce qu'on a d'abord, je le disais, les sociétés de sécurité issues de l'extrême droite, en gros. Là, elles emploient des bras cassés, c'est les années 70. Et puis, dans les années 80, ça se modernise un petit peu, on n'est pas encore aux sociétés militaires privées, et là, ce sont souvent des gendarmes ou des agents des services secrets qui vont créer des boîtes de recrutement de mercenaires, qui vont créer des sociétés un petit peu plus efficaces en termes militaires que les sociétés de sécurité. Je parle de Atlantic Intelligence, Groupe Baril Sécurité, SAS, Eric Essa, etc. Ça, c'est surtout les années 80 et le début des années 90. Et puis, on va évoluer avec Geos, que j'ai déjà cité, mais qui va se professionnaliser, obtenir plus de capital. La Secopex. La Secopex, c'est la vraie première société militaire privée française parce qu'elle ne fait pas directement de combat. Elle est donc dans cette zone grise où, officiellement, on n'est pas dans la définition traditionnelle du mercenariat, qui était celle du soldat de fortune, donc du gars payé pour porter un fusil. Non, la Secopex, elle va faire de ce qui est au cœur des sociétés militaires privées américaines, elle va être un force multiplier, un démultiplicateur de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle mobilise, elle recrute des gens qui viennent des plus grandes, des meilleures armées du monde, donc les Russes, les Américains, les Britanniques, les Français. Et puis, elle va mettre ces gens-là, et surtout les Français, puisqu'elle est française, elle va mettre ces gens-là au service d'armées, de police, de services secrets, de pays plus pauvres, pour les amener au niveau auquel sont nos services secrets, nos armées, nos polices occidentales.
L'anniversaire aujourd'hui de la mort de Norbert Dangon, des 11 000 personnes qui sont...
On ne va pas laisser faire, ils peuvent nous mesurer. d'autre choix que d'affronter les airs sans plis de leurs meurtriers et leurs complices en pardon à l'improviste qui s'avère être un simulacre de réconciliation.
Le secret craint la lumière, l'ombre sur les écrits diffuse le mensonge et respect aux âmes privées de leur corps, enterrées à tort au cimetière par la raison du plus fort.
L'histoire elle est là, Norbert était là, plume de vérité qu'on a buté là, brûlé par le feu, éliminé là. Je veux qu'on me dise que ça m'est là. Pourquoi le tuer, pourquoi le buter, pourquoi le viser, pourquoi déguiser, pourquoi ne pas dire arrêtez de fuir, le doute c'est les gènes, à moi de l'ouvrir.
Nous rendons justice en parfaite impartialité, les coupables vont devoir payer. Il faut bannir impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité.
Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Ceux qui restaient ont classé le dossier, mais on ne le va pas laisser faire. Ils peuvent nous mesurer tant qu'ils ne seront pas jugés. On ne va pas se taire.
Il a décidé, il a raison. Abunda rare naya rare 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 continue.
Réduit en cendres un 13 décembre, pas la moindre trace de vie, encore moins de chair morte dans un véhicule calciné. L'horreur est bien humaine, elle a le goût, elle a l'odeur, la texture d'une politique sans envergure, cravate, costard et pourriture.
Ils ont tiré sur Norbert, ils ont voulu le faire taire. Ils ont brûlé tout ce qui restait, ont classé le dossier. Mais on ne va pas se laisser faire, ils peuvent nous museler, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire.
Je suis la plume calcinée au détour d'une vie, aujourd'hui ressuscité, le temps d'une vie. Je suis la voix menacée d'extinction à vie, qu'attentats et confinement nous guère ramollis.
See them come, the devil disciples. Try to hide the truth from high. Les sorciers habitués à manger, mais l'os des Zongo sera le dernier.
Pour attirer nos maisons.
Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire. Puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier. Mais on ne le va pas laisser faire. Ils peuvent nous mesurer tant qu'ils ne seront pas jugés. On ne va pas se taire.
Changeant, il est désormais nécessaire pour jouer dans la Coupe des Grands et continuer à exploiter, ma foi, d'autres pays comme le font les Américains, les Britanniques. Il était nécessaire de donner un coup de boost à nos sociétés de mercenariat embryonnaires, les fameuses sociétés de sécurité dont je parlais tout à l'heure, les sociétés issues des gendarmes ou des barbouzes, Montoya, Baril et compagnie, que j'ai mentionné tout à l'heure, etc. Donc pour ça, il fallait que des capitaux soient disponibles massivement pour ces sociétés et en toute légalité, parce que les services secrets évidemment peuvent financer des opérations, mais jusqu'à un certain prix, sinon ça se voit. Du coup, le fait de déléguer à des mercenaires quelque chose, c'est généralement parce qu'on ne veut pas en assumer la responsabilité, et si on est pris la main dans le sac en train de financer, évidemment, on se prend la responsabilité en pleine poire. Donc là, l'idée, c'est directement de pouvoir dégager, faire émerger des marchés suffisamment importants pour que se développent des vraies sociétés militaires privées
Aux États-Unis, le ministère de la Défense, chaque année, il emploie de l'ordre de 700 000 sous-traitants. Donc c'est colossal. Alors ils sont pas tous des sociétés militaires privées, il y a aussi des boîtes d'informatique, des ceci, des cela, mais enfin, ça donne le niveau de sous-traitance de la première puissance militaire au monde. Il existe des sociétés militaires privées américaines, MPRI et d'autres. Il y a Blackwater, on a parlé, on aurait pu parler de Sandline autrefois, de DynCorp, j'ai parlé d'Halliburton, de Kellogg Brown and Root ou Brown and Root, etc. Il y en a un certain nombre. Elles sont disponibles et théoriquement elles se vendent au plus offrant. La réalité, c'est qu'on est dans une sorte de marché de dupes parce que ces entreprises sont certes privées, mais dans les faits, elles sont toujours le prolongement des services secrets de leur pays. C'est-à-dire qu'elles n'ont de privé que les statuts et les capitaux. Mais leurs vrais maîtres sont toujours les États. Sont toujours les États, et pas tous les États, mais les États les plus puissants du monde. On n'a pas le droit aujourd'hui, dans notre système de rapport de force géopolitique, un acteur privé n'a pas le droit d'être indépendant. Non pas que je défende l'idée qu'un acteur privé militaire devienne indépendant, mais il faut se garder de cette illusion auto-entretenue par ces boîtes-là. Elles n'ont de privé que les statuts et les capitaux et les profits. En revanche, elles obéissent aux politiques étrangères de leur pays ou de pays de tutelle. Et pour MPRI, DynCorp et tout ça, c'est Halliburton et compagnie, ce sont les États-Unis, et pour la CECOPEX, etc., ce sont les Français. Aux États-Unis, c'est particulièrement évident parce que les sociétés militaires privées américaines doivent demander l'autorisation formelle, c'est-à-dire le feu vert, du ministère de la Défense avant de signer le moindre contrat avec le moindre client.
Oh, nana. Yeah, nana, yes. Yeah. The streets is getting hot, and the youths them might get so cold. Searching for food for the pot, and they'll do anything to fill that gap. Lord, in the streets is getting hot, and the youths them might get so cold. Searching for food for the pot, but they'll do anything to fill that gap. As generation comes and grows, you got to make preparation while the youths them grow. It's what you reap, it's what you sow. The youth them are the light and the future, so when that's them, you know.
If education is the key,
so tell me why the big guys are making it so expensive for we. Give them the key or set them free. In the streets it's getting hot, and the youth them are getting.
Alors, on vous rappelle que vous écoutiez un extrait d'une entrevue qui a été réalisée par Paris France-Afrique, l'émission radio de survie, donc une organisation française qui lutte pour la réelle décolonisation de l'Afrique. On vous invite à visiter le site web afriradio.net. Vous allez retrouver énormément de reportages audio d'actualité sur l'Afrique et particulièrement sur tous les enjeux qui touchent la décolonisation et malheureusement la colonisation qui continue en Afrique sous les bottes des sociétés militaires privées mais également de nos gouvernements et beaucoup des transnationales, un peu comme Gerardo Heikel nous en parlait plus tôt ce matin, particulièrement les entreprises notamment canadiennes dans le secteur des mines, mais également les pétrolières, les transnationales de l'alimentation, etc. Donc, pour retrouver le reportage intégral ainsi que d'autres nouvelles d'actualité sur l'Afrique en français, afriradio.net. En musique, nous avions l'auteur La Rumeur avec la chanson.
Donc c'était La Rumeur avec la chanson Les petites annonces du carnage.
Je parle français.
Moi aussi je parle français.
J'aime parler français.
Français?
Français?
Français!
Nous parlons français.
Parlez-moi en français s'il vous plaît.
Ma fierté a une langue. Un message d'impératif français.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelles Vagues. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelles Vagues, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Mmh.
La canción y su autor. Una emisión dedicada a la música latinoamericana y española, así que a sus artistas. Tous les dimanches de 11h30 à midi sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM. Je vous y attends.
Festivalissimo présente sa 16e édition Film et Fiesta. Festivalissimo est depuis 1996 le plus important festival de films provenant d'Amérique latine, d'Espagne et du Portugal. Des primeurs, des nouveautés jamais vues au Québec, du cinéma d'auteur et du cinéma indépendant. Festivalissimo, du 18 mai au 5 juin, au cinéma ONF face au métro Berri-UQAM. On vous attend aussi à la Fiesta Latina les 3, 4 et 5 juin au Square Cabot, au métro Atwater. Informations au 514-737-3033 ou sur www.festivalissimo.ca.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centreville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.